Voici la zone avec Pascal Grenon.
Bon ben salut à toute la gang de la zone. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le micro. Aujourd'hui c'est quelque chose de nouveau. Je trouve ça pas mal de fun. C'est la première fois que je vais faire ça. Puis je pense que les gens vont être contents parce que c'est la première fois que je vais avoir un invité. En fait, j'ai jamais eu la chance d'avoir quelqu'un à jaser à travers mes podcasts. Ça va être la première fois. Puis la première fois, ça va être avec quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est Mario Hudon. Mario Hudon qu'on a entendu très très souvent à la radio. Vous connaissez très très bien. Avec son émission Gérant d'estrade qui animait au FM 93. Moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire ça avec lui. C'est un premier essai. Vous devinez qu'on va jaser d'un sujet que tout le monde aime beaucoup ici. C'est les Nordiques, mais on va essayer de jaser dans un sujet un petit peu plus large. En fait, on va se laisser aller puis on va parler un peu de la situation de la Ligue nationale, des Nordiques. Est-ce que c'est possible d'avoir un retour des Nordiques avec la situation qu'on est en train de vivre présentement? Mais je voulais présenter, alors je dis « Salut Mario, comment ça va? »
Ça va bien, t'étais tanné de te parler tout seul. C'est ça le confinement, on vient fou un peu, on se parle tout seul, puis il y a un psychologue qui m'a dit « Si les murs te répondent, là, ça commence à être un problème. » Là.
Exact, je sais pas si tu vis ça un peu comme moi. Nous, on a la chance, en tout cas, personne ici travaille, donc on est ici à la maison, qu'on est un peu protégé, mais effectivement, quand on est plusieurs, je sais pas si toi t'es tout seul, mais ici on est beaucoup, donc ça peut amener d'autres choses. J'ai pas à parler au mur, mais pour ce qui est des podcasts, de jaser ici pour jaser d'un dossier qui est pas évident, les Nordiques, je pense que ça va être pas mal le plus fun à deux. Fait que je sais pas si toi, Mario, de ton côté, toi, chez vous, ça se passe bien, personne n'est malade, tout le monde est en forme.
Tout le monde est en forme. Moi, je suis seul avec ma blonde, tu sais, fait que, puis ma blonde continue à travailler. Donc, elle est pas là le soir. La semaine dernière, elle était en vacances, donc on a passé la semaine ensemble. J'étais quasiment heureux qu'elle recommence à travailler aujourd'hui.
Ouais. C'est bon. Ouais, c'est comme ça, mais écoute, parlant de situations un peu extrêmes, je dirais même surréalistes, en fait, c'est absolument surréaliste ce qui se passe. C'est drôle que ça prenne une situation un peu comme ça pour, disons, ramener un peu l'intérêt dans le sujet des Nordiques. Puis ça, on en parlera tout à l'heure, mais juste avant, là, parce que c'est une situation surréaliste, puis moi, c'est quelque chose que j'ai suivi dès le jour 1. C'est vraiment un sujet que... C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, je sais pas pourquoi, mais le sujet des pandémies et tout ça, j'ai toujours suivi ça avec l'espèce d'addiction un peu morbide, mais bon... Tu penses quoi de tout ça? Est-ce que tu penses quoi de la situation actuelle vis-à-vis... là, je parle même pas nordique, là, je parle pas hockey encore, mais versus cette pandémie-là qui est mondiale, c'est une situation qu'on n'aurait jamais cru vivre. Toi, tu vois ça comment? Tu vis ça comment, cette période-là un peu étrange?
Ouais, mais je te dirais que je vis ça difficilement pour une raison. Moi, les confinements puis les choses où on doit s'ajuster au plus épais d'entre nous, ça m'a toujours un peu désolé. Puis là, on a l'impression qu'on est tous à la maison parce qu'il y a deux, trois caves qui comprennent pas comment il faut vivre dans cette période-là. Et tu sais, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre qu'on ferme tout puis qu'on va peut-être tuer l'économie pour peut-être 10-12 épais là, qui comprennent pas qu'il faut vraiment prendre le temps d'être confiné, d'être prudent, de se laver les mains puis de s'assurer que de pas propager un virus qui pour l'instant a pas de remède là.
Puis juste pour être certain, Mario, toi quand tu parles de on va dire des épais, c'est est-ce qu'on parle de des gens qui font pas attention ou tu parles des décideurs qui ont décidé que c'était le temps de tout fermer puis de faire qu'on allait tout le monde être confiné, que c'était la quarantaine, qu'on allait fermer toutes les business, est-ce que c'est un peu contre ça que contre ce principe-là, je pense?
Non, ben moi, je suis pas contre ce principe-là. Je suis contre le principe de des gens, comme tu as vu celui toussé sur un
clavier, OK, oui, là, oui, oui.
Ces caves-là qui comprennent pas, tu sais.
Je comprends.
Mais sauf que ça m'oblige, moi, à me priver des gens que j'aime parce que, justement, il y a ces épais-là qui comprennent pas, là. Tu sais, il faut prendre des mesures. Je pense que les mesures sont exagérées, mais ça, c'est mon opinion à moi, là. Tu sais, je respecte ce qu'on nous dit, puis je suis à la maison, je sors à peu près pas, mais je trouve qu'il y a des décisions qui se prennent. Il faut rester à la maison, puis le lendemain, on dit tu devrais aller faire du bénévolat. Tu sais, il y a quelques petites choses qui sont difficiles à comprendre dans ce qui se passe là, puis je pense qu'il y a peut-être une solution.
Bon, oui, je suis assez d'accord. Il y a des contradictions un peu curieuses là-dessus. On s'entend qu'il y a des services essentiels qui doivent continuer à rouler. Moi, je suis moins certain que toi au niveau de est-ce que c'est bon ou mauvais au niveau de la quarantaine, du confinement. Moi, j'ai personnellement des gens dans ma famille qui ont des entreprises personnelles et c'est une situation qui est vraiment invivable. Je veux dire, au niveau économique, c'est très, très dur. On se demande comment ces personnes vont s'en sortir. Moi-même, j'ai des projets qui sont sur la glace, des projets importants qui... Ça change toute la situation. Mais par contre, est-ce qu'il faut se protéger des imbéciles, comme tu les appelles, des gens comme le tousseux qui lui trouve ça drôle? Puis je sais même pas s'il était malade, là, j'espère que non. Là. Mais bref, juste le concept de pas comprendre ça, mais il faut se protéger un peu de ces gens-là. Mais sinon, globalement, si la maladie se répand, puis c'est facile de se mettre la main dans la face, à se mettre le doigt dans les yeux parce que tu as touché un panier à l'épicerie avant, puis ensuite, tu pognes ça, tu files ça à toute ta famille. Ensuite, tu files ça à tes grands-parents, à des gens qui sont peut-être en moins grande santé. C'est un peu touché tout ça. Puis je suis pas sûr je me situe où par rapport à ça. Je suis un peu mal à l'aise au niveau économique. Je me demande comment on va s'en remettre parce que clairement, ça sera plus pareil. Puis ça va nous mener tantôt à notre sujet sur la Ligue nationale puis qu'est-ce qui va se passer. Mais au niveau personnel puis économique ici, les petites entreprises, là, ils vont manger une méchante claque à la gueule. Les restaurants surtout, les petites entreprises. Où, t'sais, Mario, je pensais aux gens qui... C'est sûr qu'il y a des gens qui étaient sur le point de lancer leur business, qui avaient investi plein d'argent, qui avaient loué un local, acheté des équipements. Ils s'apprêtaient à ouvrir. Puis là, boum, zéro client. Ça doit faire mal solide. Je veux dire, comment tu peux te remettre de ça? Le gouvernement, il ne peut pas t'aider assez pour te remettre de ça. Là.
Ben, écoute, moi, où j'en ai, tu sais, je comprends que les grands rassemblements de 15, 20, 50 personnes, 100, 150, tu sais, il fallait arrêter ça. Et c'est pour ça que les circuits majeurs ont arrêté ça, ont été dans les premiers, parce que c'est ça qui propageait trop. Sauf que là, je peux pas croire que certains commerces pourraient pas fonctionner comme une épicerie, puis rester ouvert, puis être capable de donner un service. Alors que présentement, on ferme tout. Là, je voyais encore un texte aujourd'hui que j'ai partagé sur ma page Facebook où on dit que tu devrais même pas sortir prendre ta voiture. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter. Là. Puis là, on est rendu qu'on se dénonce entre nous autres parce que t'as deux couples d'amis qui se rencontrent pour prendre un verre de vin un soir alors que ça fait 14 jours qu'ils sont en confinement tous les deux. Tu sais, il y a trop d'extrêmes là-dedans. Bon, on laisse le Costco ouvert, on laisse le Walmart ouvert. C'est ça qui a pas de bon sens.
Ah, c'est une situation qui n'est pas évidente, mais sérieux, je voudrais pas être à la place, disons, de Legault ou des décideurs pour savoir c'est quoi la décision qu'on prend. En tout cas, c'est pas évident. Ouais, bon. Tu me disais il y a deux secondes que les sports professionnels ont été les premiers, disons, à tirer la plug. Ce qui nous amène un peu au sujet un peu du jour. Là. Il va se passer quoi avec le sport majeur? Est-ce que tu penses qu'après ça. Est-ce que tu penses que le modèle va rester le même ou il va changer complètement parce que la situation est intenable? Parce qu'on s'entend, moi, de mon point de vue, on en a pour au moins un an encore. Je veux dire, le retour à la réalité, au temps, c'est au moins un an. Je vois pas ça avant ça. Donc, est-ce que on va parler de la Ligue nationale? Est-ce que la Ligue nationale peut se remettre de ça? Est-ce que Gary Bettman peut se remettre de ça? Et est-ce que la Ligue peut garder le même modèle d'affaires que présentement?
Ben, écoute, juste avant de passer à ce sujet-là, je veux dire que pour moi, les gouvernements, M. Legault, font un très bon travail. Là. Je remets pas en question cette partie-là, mais tu comprends que lorsque les ligues professionnelles ont fermé, les premiers, la NBA, on dit les premiers, ça a été la NBA, mais tu sais, la Ligue nationale n'a pas eu le choix de suivre. C'est sûr que ça pouvait pas être le baseball majeur, ça pouvait pas être la NFL. Eux autres, ils étaient pas encore les saisons n'étaient pas commencées, puis il y avait même pas pour la plupart, à part le baseball, qui avait ses camps d'entraînement où il y a à peu près 12 personnes qui vont voir les matchs, et il n'y avait pas encore d'urgence de ce côté-là. Mais la NBA et la Ligue nationale, eux, étaient dans le vif du sujet, comme on peut dire, pour être dans la fin de la saison, les séries approchaient, puis je comprends qu'il y avait des décisions à prendre. Tu comprendras aussi que la NBA a pris la première décision, puis la Ligue nationale a un peu hésité avant de prendre des mesures. Il a fallu que certains États du côté américain disent interdisent tous les rassemblements. On prévoyait même avoir un match du Canadien à San Jose sans spectateurs. Tu sais, tout étant là, ça a commencé. La Ligue nationale, on voyait tout de suite la réticence de ne pas
clairement. Mais ça d'ailleurs, puis là-dessus, Mario, est-ce que c'est, je sais comment je pourrais dire ça, est-ce que c'est l'arrogance qu'on connaît de Gary Bettman, son espèce de parce qu'on Gary Bettman, c'est un personnage assez narcissique, il est assez arrogant, en tout cas, selon mon point de vue. Puis justement, moi, je pense que lui aurait fait n'importe quoi pour pas devoir se plier à ces exigences-là. Lui, on a vu que, comme tu dis, la NBA, ça a été super rapide. Eux autres, ils n'ont pas hésité, ils ont tiré à la plug super vite. Mais Bettman, tu voyais que lui, ça ne tentait pas, puis ça ne tente pas encore. Puis si ça avait été de lui, ça aurait continué, d'une manière ou d'une autre. Là, ça doit le déranger pas à peu près. Là, on voit qu'il cherche des façons de, juste, de sûrement dû voir ça. Là. On pense présenter des matchs en Dakota du Nord ou dans un aréna quelconque, présenter des matchs devant personne. Moi, je sais pas si t'aimes l'idée. Moi, personnellement, je trouve l'idée absolument ridicule. C'est comme une façon de dire, on va essayer de sauver la saison absolument pour pas perdre d'argent avec les diffuseurs. On va essayer de préserver une semblance de fin de saison pour pas changer, pour garder le statu quo, puis garder le modèle actuel, puis faire un semblant qu'il est encore vivant, puis que ça va marcher, puis on va essayer d'aller chercher encore de l'argent dans les poches des gens d'une manière ou d'une autre.
Non, mais tu comprends que, à mon avis, c'est pas ça qui se passe. Là. Puis, tu sais, Bettman, lui, est là pour protéger les propriétaires, puis certains propriétaires qui regardent ça. Je pense que pour l'instant, j'en ai parlé, il y a ma chronique sur Zone Nordique aussi où j'en parlais des différences de la Ligue, puis pourquoi la Ligue nationale était plus dans le trouble que les autres circuits majeurs. Ben, dans un plus grand problème que la NBA. Mais là, la Ligue nationale, ce qu'elle essaie de faire, c'est présentement, c'est d'éviter de rembourser. Ce qu'elle maintient là, c'est de dire, on n'aura pas de millions à rembourser parce qu'on va continuer à garder l'espoir qu'on va jouer la fin de la saison, puis peut-être les séries, parce que aussitôt que tu vas dire que c'est terminé, là, il faut que tu rembourses des spectateurs pour les matchs qui
c'est en plein ça que je veux dire par statu quo, puis préserver un peu leur plan d'affaires pour leur modèle. Le statu quo, c'est ça qu'ils veulent préserver. Puis à quelque part, moi, je trouve ça un peu minable parce que je pense que on sait très bien que ça n'arrivera pas, qu'il n'y en aura plus de rassemblement avant plusieurs mois, sinon, comme je disais, une année et même plus. Donc plusieurs mois, puis je pense même que le début de la saison prochaine, malgré ce que peut penser Trump ou n'importe quel décideur ou président ou premier ministre, il n'y aura pas de sport majeur. En tout cas, il n'y aura pas de grande foule dans les amphithéâtres là, à l'automne prochain. Donc, la Ligue nationale, elle a beau dire ce qu'elle veut, elle peut nous faire à croire qu'elle va présenter des matchs devant personne. Moi, je trouve ça, juste de le dire, je trouve ça complètement parce que je l'ai un peu écrit, c'est un peu dénaturer ce que c'est vraiment le sport professionnel. Là, c'est rendu une grosse business, puis c'est de l'argent, mais à la base, le sport professionnel, c'est quoi? C'est des gens qui se regroupent ensemble puis qui assistent à un spectacle. Puis ça prend des spectateurs, puis ça prend des gens dans la foule. Sans ça, il n'y a aucun plaisir, il n'y a pas d'armes, le sport, il n'est pas vivant. Eux autres, ils veulent présenter ça.
Là, bien sûr, tu parles d'un circuit qui est la Ligue nationale. Pour les autres circuits, la NBA, le baseball majeur, la NFL, eux ont des revenus de télé qui leur permettraient de passer au travers cette période-là, eux autres, avec moins de spectateurs ou pas de spectateurs dans les gradins, ce qui n'est pas le cas de la Ligue nationale. Et c'est pour ça qu'il faut mettre la Ligue nationale dans un coin à part, dans ce dossier-là, puis de comprendre qu'eux ont besoin des publicités et des bandes, ils ont besoin des spectateurs dans les gradins, parce que c'est ça leur principal revenu comparativement aux autres circuits. Tu sais, la NBA joue sans spectateurs, les salaires sont payés par les droits de télé énormes qu'ils ont, la même chose pour le baseball majeur, même chose pour la NFL. La différence, c'est que le gravy des spectateurs n'est pas là, mais la NFL peut se permettre de jouer devant des stades peut-être à moitié plein, puis avec moins de revenus de billetterie. Mais la Ligue nationale peut pas se permettre ça. Malgré ce qu'on nous a dit depuis des années, ce qu'on a essayé de nous faire croire depuis des années que ça va bien. Tu sais, ça va bien aller, là. On l'a entendu de la Ligue nationale, ça va bien aller, ça va bien. Tout est beau, tout est parfait. Les revenus augmentent. Tu sais comment est-ce que, moi, quand on me parle des revenus augmentent puis qu'on me dit que les profits augmentent pas, il y a toujours une différence dans ma tête. Pour ce qui est de la Ligue nationale, il faut arrêter de tenir ce discours-là. Les revenus augmentent, Bettman a été bon pour la Ligue nationale. Ça, c'est le discours des gens qui veulent bien paraître pour la Ligue nationale. Et ils veulent être dans les bonnes grâces de la Ligue nationale, parce que c'est pas vrai, ça. Cette partie-là est pas vraie. Il y a des équipes qui vont extrêmement bien, qui sont extrêmement rentable, il n'y en a pas de problème. Mais c'est pas le cas de toutes les équipes comparativement à la NFL, à la NBA et au baseball majeur. Dans le baseball majeur, il y a des gens qui pensent que les Rays, exemple de Tampa Bay, sont dans la grosse misère noire. C'est pas le cas du tout, là. Comparativement aux clubs comme la Floride puis l'Arizona du côté de la Ligue nationale, il y a aucune équipe qui vaut moins d'un milliard dans la NBA. Il y a une équipe qui perd de l'argent, mais c'est pas grave, eux autres. Il y a une équipe sur les 30 qui en perd de l'argent. C'est pas le cas de la Ligue nationale.
Non, clairement, dans tous les sports majeurs, excluant peut-être la Ligue nationale, ils ont souvent des systèmes de partage de revenus qui sont plus intéressants pour les équipes qui ont de la misère, mais si on en reste à la Ligue nationale, ça a toujours été le nœud du problème. Je veux dire, ça fait des années qu'on en jase, qu'on écrit là-dessus. Je veux dire, c'est toujours le même problème. Je veux dire, il y a quelques équipes au Canada, quelques équipes en Amérique du Nord qui fonctionnent à plein régime, puis il y a tous les marchés qui ont en fait jamais fonctionné. Et c'est toujours été une espèce d'idée entretenue que, tu sais, tu parlais de tout va bien, là, le fameux arc-en-ciel et tout ça. Là. Je veux dire, Gary Bettman, ça a toujours été son adage favori. Là. Je veux dire, tout va bien, tout est parfait. Je veux dire, ça a toujours été une belle illusion, selon moi, la Ligue nationale de hockey. Puis ces revenus-là qui grimpent supposément sans arrêt. Mais pourquoi les revenus grimpent? C'est parce que le prix des billets est indécent au Canada, indécent dans certains marchés en Amérique du Nord. Mais ça fait pas que le reste fonctionne mieux. Mais là, on s'entend que les revenus de la Ligue nationale, en grande partie encore, les revenus des tickets dans les amphithéâtres. Fait que moi, je me demande comment ça peut fonctionner de présenter des matchs devant personne en pensant que, je sais pas, est-ce qu'ils ont derrière la tête de faire payer un montant supplémentaire aux gens qui voudraient regarder ces matchs-là pour essayer de compenser pour les tickets que les gens vont pas payer dans les amphithéâtres.
Ça ne compensera jamais pour les billets, ça ne compensera jamais pour les gens qui achètent des hot dogs, qui achètent des chandails, qui vont au match, ça compensera jamais.
Les hot dogs à 12 piastres.
Qui est le publicitaire qui va mettre de l'argent dans les prochains mois pour mettre de la publicité?
Mais personne, de toute façon, il n'y a plus personne. Je veux dire, le problème est justement partout. Là. Je veux dire, la crise, c'est pas seulement la Ligue qui a vie. Je veux dire, les compagnies qui payent des publicités, eux autres aussi ont moins de revenus, eux autres aussi sont en train de vivre une crise. Ils n'auront pas le goût de débourser un petit peu plus pour que les gens puissent écouter du hockey à TV devant zéro spectateur dans l'amphithéâtre.
T'as un bon exemple, juste à Québec, des stations de radio qui ont congédié ou qui ont mis à pied la plupart de leurs animateurs. Ils ont pas fait ça de gaieté de cœur. Ils ont fait ça parce que les publicités rentrent pas. Parce que moi, le concessionnaire où je travaille, il m'a plus de pub, il m'a pas de pub, là. Il a tout coupé ça, il a coupé tous ses employés, il est obligé de fermer. Ben, ça va être la même chose. Demain matin, on va relancer l'économie, puis ce qui est le premier endroit où on va économiser, c'est sur les spectacles, ces choses-là qu'on va compenser. Moi, j'étais un gars qui allait au restaurant, puis qui avait des amis restaurateurs, puis j'allais dans un restaurant à peu près à chaque fin de semaine. Mais on comprend bien que présentement, j'y vais pas, puis je m'aperçois que, tu sais, avec la baisse de revenus, puis ce que j'économise là, ben quand ça va reprendre, je vais peut-être rester à la maison aussi au lieu d'aller aussi souvent au restaurant, puis je vais essayer de me refaire. C'est la même chose. Qui va aller s'installer dans un amphithéâtre de 12, 13, 14, 15 000 personnes après ça, lorsqu'on ne sait même pas si ça va repartir, si ça va recommencer? On ne peut pas voyager. Qui va partir en voyage, va prendre l'avion pour aller dans certains endroits? Tu vas aller à Las Vegas, tu as vu Las Vegas, ça a l'air d'une ville fantôme présentement. Ben oui. Tu vas partir, tu vas aller voir les Golden Knights à Las Vegas contre le Canadien. Voyons donc.
T'as absolument raison, puis le problème est là, puis ça, c'est, je veux dire, à court-moyen terme, est-ce que vraiment, quand ça va reprendre, ça sera assez safe pour que les gens se disent « Ah, j'ai le goût d'aller me tremper les orteils avec 18-20 000 autres personnes qui sont peut-être encore malades. » Puis ça, c'est un problème, puis ça, c'est... Mais à court terme, je veux dire, le plan que la Ligue est en train de préparer, c'est un plan pour préserver les apparences, et comme tu disais tantôt, de dire « On va pas rembourser les fans, on a présenté des matchs. » Donc, on a rempli notre part du contrat, puis de s'arranger pour perdre le moins d'argent possible à court terme. Mais sinon, à moyen terme, la situation, moi, de mon point de vue, il va y avoir des grands changements. J'espère, puis il doit y avoir des grands changements. La Ligue, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Puis est-ce que ce n'est pas l'occasion parfaite pour revoir le modèle qui, à moyen terme, selon moi, ça allait exploser la Ligue. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. C'est une espèce de bulle. La bulle, elle n'arrête pas de gonfler. Elle va finir par exploser. Est-ce que c'est pas le bon moment de mettre Bettman dehors? Dire Bettman, ça fait. Là, on va revoir le modèle, on va revoir les salaires des joueurs, on va remettre le sport aux fans. Ouais. Ça fait les billets à 250, 300, 500 piastres, 15 piastres pour un hot dog, deux bières, ça te coûte 25 piastres, ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça ne peut pas tenir.
T'as beau penser ça, mais puis de mettre ça sur la faute à Bettman, mais Bettman fait ce qu'il est propriétaire lui demande. T'as vu certains propriétaires hésiter à payer les employés pendant que parce que la ligue ne diffuse pas de match, ne présente pas de match, puis tout ça là. T'as vu ça, Boston, ça a pris du temps avec certains, ils disent ok, on va compenser nos employés parce que eux autres l'argent est rentré là, parce qu'on était en fin de saison. Les gros des revenus étaient rentrés. Ce qui allait rentrer maintenant, c'était les gros des revenus, c'était les séries. Ça va dans les poches des propriétaires. C'est pour ça qu'on veut jouer les séries. De toute façon, que les revenus soient plus bons, on va couper dans les salaires des joueurs. On parle de 40% de coupure dans les salaires des joueurs avec l'escro pour la prochaine lorsqu'on parle de la Ligue nationale. Tu sais, on comprend que le modèle de la Ligue nationale est extrêmement fragile. Et ça tient à un fil. Puis ce fil-là, il vient de péter, là. Pour eux autres, ça vient de le péter d'en face parce qu'ils peuvent pas, exact, eux autres, compenser pour les pertes qu'ils vont encourir puis les prochaines qu'ils vont encourir. On comprend aussi qu'aux États-Unis, le hockey, ça passe loin, loin dans les priorités. Les gens, des fois, me reprochent les foules, les codes d'écoute, ces choses-là que je suis depuis des années. Puis que quand même qu'on nous dit que ça va bien, j'essaie de faire comprendre aux gens que non, ça va pas bien à certains endroits, puis arrêter de faire à croire qu'il y a des concessions qui sont sauvées. Là, on va le voir, là, ce qui va arriver. Là. Puis que ceux qui pensent que le partage des revenus de la Ligue nationale, là, c'est fait que c'est les 10 équipes qui font de l'argent, qui payent pour les 10 équipes qui perdent. Puis c'est un système qui est complètement, je dirais, très... qui oblige les propriétaires riches à fournir pour des équipes qui sont moribondes depuis des années et des années.
Ben exactement, justement.
T'as pas de place pour les envoyer.
Non, ben le partage des revenus jusqu'à présent, ça pouvait faire parce qu'on s'est toujours un peu posé la question, mais pourquoi un Molson ou une équipe riche veut vraiment partager pour faire survivre des équipes comme on les connaît, là, la Floride, la Caroline, l'Arizona, mais maintenant que la situation là est tough pour tout le monde, là. C'est difficile pour tout le monde. Pas sûr, moi, que les propriétaires des équipes riches, en guillemets, celles qui font tous les revenus, ils vont peut-être lever la main là, bientôt puis dire « Ouais, là, il serait peut-être temps que les équipes là, qu'on connaît, là, la Floride, la Caroline, les Coyotes, tu sais, il y a même d'autres équipes que ça fonctionne pas à plein régime, même si les médias vont nous faire croire que oui, dans la Sunbelt, il y a d'autres équipes que c'est pas fabuleux. » Mais là, il y a peut-être des propriétaires, là, on va dire Molson, on va dire des équipes riches. Ils vont dire, ouais, dans la situation actuelle, là, moi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et je pense qu'il est peut-être temps aussi de revoir le modèle parce que là, j'ai pas le goût de faire survivre les équipes qui ont aucun moyen de survivre, mais aucun. Je veux dire, en Floride, Mario, je veux dire, c'est qui faisait survivre, entre guillemets, sinon le partage, les Panthers? Ben, il y avait les Snowbirds qui se pointaient à l'aréna dans le coin de décembre. Mais là, je veux dire, il n'y a plus personne parce que les Snowbirds sont à Québec.
Oui, mais
ils ne vont pas revenir tout à coup dans l'amphithéâtre.
Mais Pascal, tu sais, dans la situation actuelle, là, ceux qui perdent le plus, là, c'est pas la Floride. Ils n'en faisaient pas d'argent. Ils ne peuvent pas perdre ce qu'ils ne gagnaient pas. Quand tu as 17 millions de revenus de billetterie dans ton année, quand même, tu aurais perdu les 5 derniers matchs. C'est rien, c'est zéro. Mais Molson, lui, il perd 2 millions par match.
Mais ce que je veux dire, Mario, c'est ça, t'as raison. Mais c'est justement mon point. Là, c'est peut-être qu'un Molson, lui, va se dire, là, j'ai plus les moyens de renflouer les coffres d'une équipe comme la Caroline. Puis si on regarde Dundon, le propriétaire des Hurricanes, la situation actuelle, là, c'est pas sa vie, ce n'est pas seulement les Hurricanes, la Caroline. Je veux dire, ce gars-là, il est en train de perdre de l'argent ailleurs, dans d'autres domaines. Et est-ce que lui, ça va lui tenter de continuer avec ce modèle-là, considérant qu'il sait très bien que les Hurricanes, là, c'est pas la grosse affaire malgré la maudite bunch of jerks, leur petit spectacle de fin d'année. Là. Je veux dire, ça marchera jamais là-bas. Là, dans la situation, probablement que Dundon, il est en train de voir ses actifs fondre. Il voit ses autres compagnies avoir beaucoup de problèmes parce que, comme je disais, la situation, elle affecte tout le monde. C'est pas juste la Ligue nationale, c'est tout le monde. Donc, indirectement, Dundon est en train de souffrir avec ses autres compagnies. Il est en train de perdre de l'argent à gauche, à droite, en avant, en arrière. Il va regarder son équipe, là, ses Hurricanes, en sachant très bien que c'est loin d'être justement une mine d'or, puis dans le fond, ça fait pas d'argent cette compagnie-là. Pas sûr, lui, qu'il va pas aussi lever la main pour dire « je pense que c'est assez, je lève le camp. L'équipe est à vendre, je veux plus rien savoir, j'ai pas les moyens de renflouer les coffres. » Puis en même temps, il y a Molson qui va lever la main pour dire « ouais, ça fait bien mon affaire parce que moi non plus, j'ai pas le goût de renflouer tes coffres. Ouais, » Donc, c'est pour ça que moi, je pense que le modèle va tomber.
Mais le problème, dans une ligue comme ça, c'est que tu as besoin d'adversaires. Tu sais, tu peux pas dire il y a 5 équipes qui vont fermer. Tu as besoin d'adversaires. C'est une ligue, c'est un groupe d'individus qui sont en compétition sur la patinoire, mais qui sont des partenaires dans les bureaux. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Tu sais, tu as besoin de ces gens-là. Est-ce que, où t'envoies les clubs? Qui en veut? Ça, c'est une autre chose. Mais ce que les gens vivent présentement, ce que les gens en Floride, ce que le propriétaire en Floride, en Caroline, en Arizona, puis ailleurs, ce qu'ils vivent actuellement, le prochain qui va ramasser cette équipe-là, prends notre ami en Arizona qui a payé 300 millions. Dans le fond, il a payé le prix des dettes pour acheter l'Arizona. Puis là, il va manger ses bas ça, en pensant que... Puis il va peut-être se dire, « Hey, Barrow, il a acheté ça 300 quelques millions, puis j'y ai donné 5% des parts, puis j'ai dit merci, bonsoir, t'as tout perdu, tu peux t'en aller avec ton petit bonheur. » Le prochain, il va se dire, est-ce que ça va être ça? Ah, tu vas peut-être avoir des équipes à bon prix, puis il y a des gens qui vont prendre un risque. La différence, c'est que quand tu parles de ville canadienne, tu sais que les gens vont retourner au hockey. Tu sais que les gens vont être là.
Clairement.
Tu sais que dans le nord des États-Unis, tu sais qu'ils vont revenir eux autres. Ça va peut-être prendre un peu de temps avant qu'on voit des buildings pleins, puis il va y avoir un ajustement à faire. On sait qu'ils vont être là. Mais on sait très bien qu'ils reviendront pas en Caroline, qu'ils retourneront pas en Floride, qu'ils iront pas dans ces endroits-là. Ils étaient déjà pas là quand on nous disait que ça allait bien. Tu sais, on nous disait, il y a pas de monde. C'est le trafic. Et là, le trafic, ça va être encore bien pire, là, parce que le trafic, il n'y en aura plus de trafic parce que le monde va rester chez eux. Ouais. Et c'est sûr que ça va changer. La différence, exactement, encore une fois, c'est que la Ligue nationale, c'est un enfant pauvre. Encore une fois, nous autres, on a le nez sur la vitre, tu sais, de la Ligue nationale, puis nos médias, puis nos gens ici nous font croire que ça va bien, puis tout est beau, puis tout est parfait. Mais c'est pas vrai, éloigne-toi de la vite un peu. Tu vas voir que c'est pas ça, c'est pas Jojo. C'est Jojo pour la NBA, puis ça, ils vont s'en sortir. Repartir la NBA, on fait ça demain matin. Repartir la Ligue nationale. Tu penses que, tu sais, on sait très bien que ça repart pas dans deux jours, la Ligue nationale. Faut remettre les gars en forme. Faut remettre de la glace dans les arénas. Faut repartir tout le système. Faut repartir les filiales. Faut repartir la Ligue américaine. Faut tout repartir, le système.
Exact. Mais oui, tout à fait. Puis ça, c'est plein de choses qu'on pourrait en discuter. Puis longtemps, parce que là, la Ligue présentement est en train de nous faire croire que tout va bien. Ça a toujours été comme ça. Puis qu'ils vont réussir à. Ils veulent encore garder l'intérêt. Puis dire que la saison, ils vont la sauver. Mais je pense qu'on s'entend pour dire que. Le modèle va devoir changer. Puis ça c'est drôle, ça fait 27 minutes qu'on jase, puis on a à peine effleuré le mot nordique, puis je pense que je vais le faire. Mais... Est-ce que tu penses, Mario, parce que là, il y en a quelques-uns, on dirait, c'est drôle, là, la situation actuelle a un peu ravivé la flamme des Nordiques qui était absolument, on va dire, éteinte depuis au moins un an, sinon deux ans, c'était pas mal mort. Puis là, c'est drôle. Oh, sur Zone Nordique, on commence à avoir de plus en plus de monde. Les gens reviennent. On commence à voir ça, ces médias sociaux, Twitter, Facebook. Les gens parlent, les gens posent la question. Est-ce que ça pourrait favoriser, selon toi, le retour des Nordiques?
Bien, c'est sûr que demain matin, s'il y a des équipes qui décident de se débarrasser, s'il y a des propriétaires qui décident de se débarrasser de leur petite bebelle, de leur équipe de la Ligue nationale, parce que les gens en veulent plus en Floride ou ailleurs, c'est sûr que ça peut favoriser. Mais moi, je vais revenir à ce que tu me dis, que les gens qui criaient haut et fort, jamais ils vont revenir, jamais ils vont revenir. Ils sont assis devant leur télé ce soir, puis ils regardent un match de 1993 avec les larmes aux yeux, la petite bave au coin de la bouche, parce que là, ils triplent. Oh mon Dieu, ça a donc bien le fun, la rivalité avec le Canadien. Ouais. Hey, vous le saviez, mais là, vous aviez mis ça sur le côté, c'est pas grave, c'était plus important. Les réseaux qui présentent RDS, qui ce soir présentaient un match Floride-Canadien, un match express, un vieux match entre la Floride et le Canadien, pendant qu'à TVA Sports, on nous présentait un match Canadien-Nordique. D'après toi, la cote d'écoute la meilleure, ça va être laquelle? Ça sera certainement pas le match de la Floride à RDS. Hein? Ça va
être, pense pas, non.
TVA Sports va avoir un score extraordinaire pour une affaire qu'en 93, j'ai même pas jeté un coup d'œil 3 secondes à ça. Moi, là, Les gens me disent que tu vis dans le passé, Udon. Ben, je vis pas dans le passé parce que ça m'intéresse pas de voir les vieux matchs de 93, de revoir le Vendredi Saint, puis de revoir les vieux matchs des Nordiques présentement. Les Nordiques, ils sont plus là.
Ben, là. Je suis tellement d'accord avec toi. Là, c'est, je veux dire, puis moi, là, je suis pas en train de dénigrer ceux qui trippent à voir des vieux matchs. Puis c'est quand même un côté quand même le fun. C'est bien correct. Puis moi, c'est personnel. Moi, oui, je veux le retour des Nordiques, puis j'en parle, puis j'ai écrit là-dessus, j'ai l'air complètement accro, mais je suis pas un nostalgique de l'ancienne époque des Nordiques. Tu sais, moi, j'ai hâte aux Nordiques 2.0, puis je veux pas trop rien savoir du passé, là. Je veux dire, on regarde l'histoire, puis tout ça, c'est beau, c'est correct, puis je veux dire, mais pour moi, le passé, tu sais, de regarder des matchs de 1993, tu sais, ça me tentait un peu de plugger tantôt mes affaires pour essayer de... Ben, je pense que j'aurais écouté ça 5 minutes. Ah, c'est bien cool, mais le passé, c'est du passé.
On peut pas reprocher à quelqu'un qui rêve au retour des Nordiques de regarder ça ce soir et triper. Non, moi, je reproche à ceux qui nous disaient que ça se pouvait plus, puis qui sont tous là aujourd'hui avec la balle à la gueule, puis qui sont là à triper. Tu sais, ben, ceux qui y croient encore puis qui rêvent au retour des Nordiques, regardez ça, c'est l'histoire puis tout ça. C'est sûr qu'on aimerait revoir cette rivalité-là. Mais moi, c'est ceux qui déféquaient sur les Nordiques puis sur le retour d'une équipe puis sur les gens qui suivent les foules.
Ouais, ils font encore.
Ils continuent. Moi, les Régent Tremblay de ce monde-là, qui tout à coup, là, Molson veut rien savoir, il n'y aura jamais rien, puis tout d'un coup, il écrit un peu, les Nordiques pourraient peut-être revenir, ça va profiter. Là, ils sont tous en train de se chercher. Ils cherchent la cote d'écoute, ils cherchent à faire vivre, ils cherchent juste, puis ils servent des Nordiques pour ça, le produit qu'ils dénigraient il n'y a pas si longtemps. Mais là, ils ont besoin. Et tu peux pas parler du Canadien. Ils sont pas là. Il y a rien d'intéressant là-dedans. Comment on fait pour avoir des codes d'écoute? Comment qu'on fait pour avoir des lecteurs? On sort les Nordiques.
Ben, c'est ça qui est désolant parce que ça fait, tu sais, on le sait, on en parle, on l'a dit. Je veux dire, une des plus grandes rivalités, en tout cas, qu'on a vu dans le sport, ça reste quand même Canadien-Nordique, mais. Ça fait longtemps que, comme tu dis, les médias refusent d'en parler, ou de l'admettre, ou on l'admet du boudé, lève, ben oui, c'était bien cute, mais c'est plus ça maintenant, la Ligue nationale, passer à autre chose. Mais là, quand on est dans la marde, là, quand la situation est vraiment difficile, puis on sait plus quoi montrer, parce que comme tu dis, il n'y en a plus de Canadiens, ben là, la rivalité, c'est extraordinaire. Et là, tu entends tous les médias qui jamais, jamais parlaient des Nordiques ou des animateurs ou des espèces d'experts, et là, tout à coup, c'est la plus belle chose qui a jamais existé. Là, comme tu dis, c'est des codes d'écoute qu'on veut. On veut entretenir notre émission, on veut entretenir notre notoriété, puis là, on utilise les Nordiques. Là, tout à coup, la rivalité, c'est extraordinaire. Mais si c'est extraordinaire, ça l'a toujours été, pourquoi vous n'en parliez pas dans les dernières années, alors que ça a été très valable et très valide d'en parler, parce que c'est un fait. La rivalité canadien-nordique, c'est quelque chose, puis on a déjà parlé ensemble, on l'a déjà écrit, ça va être payant pour tout le monde. Il y en a qui croient que la rivalité nordique-canadien, ça sera pas payant pour Molson. Moi, je pense aussi que ça va être payant pour le Canadien, ça va être payant pour Québec, ça va être payant pour la Ligue nationale. Mais là, tout à coup, là, tout le monde est dans le trouble, plus personne n'a rien à faire, tout le monde s'ennuie, et là, on ressort quoi? C'est comme tu dis, c'est pas des vieux matchs entre les Panthers puis les Coyotes, les Nordiques-Canadiens, puis même les médias américains, ce serait ça qui sortirait comme match. Je veux dire, tout le monde se souvient de ça. C'est pas juste à Québec, c'est partout. C'est reconnu à travers la Ligue, c'est reconnu dans l'histoire de la Ligue qu'une des plus grandes rivalités, c'est Québec-Montréal. Mais là, on en profite. Puis là, on va faire quoi après? On va nous dire qu'après, c'est quand le Canadien va revenir, on va dire non, c'est terminé. Lâchez-nous avec les Nordiques. Voyons, passez à autre chose. C'est ça qui me désole. C'est comme le double discours. C'est le double discours, c'est toujours ça. Puis les experts, c'est la même chose. Ils ont un double discours. Ils changent d'idée comme ils changent de short. Tu parlais de Régent Tremblay. Un jour, il dit ça. L'autre jour, il va dire une autre histoire. Et, tu sais, ils vont surfer un peu sur la vague. Ils vont humer le vent un peu. Puis ils vont dire, ouais, c'est le temps de parler des Nordiques. Là. Ça va me donner une bonne presse. Fait que là, je suis positif. Ben, maintenant, quand on sent que c'est plus négatif, le texte sort. Oubliez ça, les Nordiques. Ça n'arrivera pas. C'est terminé. Moi, c'est ça qui me dérange.
Oui. Je les appelle souvent les experts, puis des fois ça forge des gens, autant sur la zone qu'ailleurs, que tu sais, moi les experts qui nous disaient quand ça a commencé le coronavirus puis le COVID-19, là, on disait la Ligue nationale n'aura pas de problème. Il n'y en aura pas de problème avec certaines équipes. Oups, ils ont changé le discours 2 semaines après. Oups, là, il y avait des problèmes. Là, ça commence à être plus difficile. Tu sais, moi, ces gens-là, c'est la même gang qui sont probablement devant leur télé à regarder qui ont regardé ce soir le match match canadien-nordique, qui étaient les mêmes, je parle de certains médias, de certains gens dans les médias, qui devaient être les mêmes quand Bill Daly est venu à Québec avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui n'ont pas posé une seule question. Pourtant, ouais. Daly venait de dire au match des Étoiles à San Jose qu'il y avait des discussions constantes avec Québec. Mais ça, encore une fois, ça a passé sous le silence. Tu sais, toutes ces choses-là. Là, aujourd'hui, ils vont sortir un paquet d'affaires, ils vont sortir toutes les possibilités. Ah ben là, la Floride, ben vraiment, la Floride va avoir des problèmes. La Floride a des problèmes depuis 20 ans, l'Arizona a des problèmes depuis 25 ans. Arrêtez que là, les problèmes vont commencer avec le coronavirus. Puis le
COVID. Je veux dire, Mario, ils disent ça comme si c'était une grande révélation en plus. C'est comme, mais c'est clair, je veux dire, oui, c'est évident que les Panthers vont avoir des problèmes tantôt. Je veux dire, ça fait, comme tu dis, ça fait... J'ai tout le temps 25 ans parce que je trouve ça parfait de dire ça. Je veux dire, ça fait 25 ans que c'est des concessions qui sont moribondes, qui font pas de revenus puis qui ont de la misère. Vous attendez à quoi? Je veux dire, tout le monde a de la misère. Je veux dire, c'est certain que ces équipes-là, eux autres, vont être dans le trouble pas à peu près, là. Mais je vois pas comment ils vont s'en remettre à moins que Gary Bettman s'entête comme un malade à trouver des solutions pour renflouer les coffres de ces équipes-là. Même Viola, qui est un milliardaire supposément, est-ce que ça va encore lui tenter après tout ça, là? Est-ce que ça va lui tenter?
Déjà avec la saison que les Panthers, puis comment est-ce qu'il n'y avait pas de monde cette année, après avoir payé 10 millions à Bobrovsky puis les autres, comment ce gars-là doit présentement se dire « ça n'a pas de bon sens ». Les joueurs qui vont donner de l'escroc parce que justement, ils en donnaient déjà 15%, ils vont en donner 40%. Puis ça, on comprend bien. Les gens, si vous regardez les chiffres, vont comprendre pourquoi ça fonctionne, parce qu'il y a plus de gars qui en profitent de l'escroc, qu'il y en a que les vedettes, qui eux autres perdent plus d'argent. Ça, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Mais c'est ça qu'il n'y a pas de bon sens. C'est ça que les gens qui comprennent pas que depuis 20 ans, la Floride a jamais, tout comme l'Arizona, a jamais fait de profit malgré le partage des revenus. Et là, les gens disent,
mais Mario, tu oublies les codes d'écoute à TV. Je veux dire, arrête, là, ça... Ça apporte, c'est un grand marché, là. Je veux dire, la Floride, il y a beaucoup de gens qui écoutent, la TV, c'est payant.
Ça, c'est la plus belle cochonnerie qu'on a essayé de faire
c'est clair.
Qui reste en Floride pour les codes d'écoute puis la télé. NBC ne présente pas de match des Panthers de la Floride, présente pas de match de l'Arizona, présente pas de match de la Caroline, parce qu'ils savent que les codes d'écoute, c'est zéro.
Et donc, Mario, on sait, je veux dire, toi, moi, on est plusieurs à le savoir, mais pourtant, si tu questionnes les gens, là, je veux dire, les gens normaux qui suivent pas vraiment ce dossier-là, comme des espèces de maniaques, des nordiques ou du hockey, eux autres, pour eux autres, c'est le discours, Ben non, c'est des grands marchés, puis eux autres, ils apportent des revenus TV parce qu'il y a plein de gens qui écoutent les matchs, ce qui est complètement faux, mais l'idée, à demeure, les gens le croient, puis les médias entretiennent ça.
Ils prennent justement, les experts nous disent que c'est le trafic en Arizona. Le monde dit, c'est sûr, c'est pour le centre-ville, c'est le trafic. Mais quand ils ont déménagé à Glendale, il n'y en avait pas question de trafic. Ils partaient de Phoenix, puis ça allait être le Klondike de ce côté-là. La même chose pour la Floride. On nous sort 36 000 raisons. Il y a 11 000 personnes qui écoutent les matchs à la télé en Floride. C'est 11 000 Québécois qui sont probablement là. Vous pensez que si la Floride est déménagée à Québec, les codes d'écoute vont baisser en Floride? Ils vont monter. Il va y avoir plus de monde qui vont écouter les Nordiques en Floride qu'il y a de monde qui écoute les Panthers. Il faut juste regarder les chiffres puis aller faire un peu d'études là-dedans. Moi, je vais me vanter si tu veux, mais je me vante pas.
Vas-y,
je travaille là-dessus, j'ai fait des textes qui sont sur la zone, tu sais, avec les chiffres à l'appui, j'ai fait de la recherche, il y en a qui peuvent même penser, mais j'ai passé du temps à regarder justement ça, en essayant de trouver des sources, au lieu de juste prendre ce qu'un expert me dit, mais il me dit, c'est important pour la... Ben oui, mais je vais te prouver que c'est pas important. Regarde, pour tel point, c'est pas vrai ce qu'on nous dit, mais on embarque là-dedans, puis on croit ça. Puis ça, ça n'a aucun rapport. Les Nordiques ne reviennent jamais, c'est une chose. Moi, ce que j'en ai, puis pourquoi je fais ça, c'est juste pour dire, écoutez, les Nordiques ne reviennent pas, c'est correct, mais arrêtez de nous dire que la Ligue nationale va bien, puis que tout va bien dans le meilleur des mondes, puis en Floride, ils sont super contents, puis le propriétaire perd de l'argent, il s'en fout, il va sauver de l'argent ailleurs, c'est pas vrai maintenant. Parce que le partage du revenu, l'argent qu'il perd, il y en a une partie que c'est Molson qui y donne. Puis Molson, là, je suis pas certain, même s'il fait 90 millions de profits, il aimerait ça en faire 110 millions de profits. Puis Jacobs à Boston, la même chose. Fait qu'il faut arrêter de nous faire croire que l'argent maintenant, avec le partage des revenus, ça sort plus de la poche du propriétaire. C'est plus lui qui perd. Lui, il en perd encore. Mais Waddell l'a dit en Caroline. Il dit, on perdait de l'argent avant. Mais on en perd bien moins maintenant avec le partage des revenus. Mais si t'en perds moins avec le partage des revenus, c'est parce qu'il y en a un qui paye pour ces pertes-là. Il y a quelqu'un qui perd de l'argent quelque part. Rien ne se crée, rien ne se perd. Hein? Si t'as 100 millions de dettes, puis t'en payes 40, il y a 60 millions qui sont payés par un autre.
Exactement. Puis là, on s'entend, je pense que là, tout le monde est en train de vivre une problématique majeure. Puis moi, je vois pas comment les équipes riches vont vouloir encore renflouer les coffres des équipes qui ne sont pas capables de se remettre de ça. On va essayer de terminer là-dessus. Ça fait déjà 40 minutes qu'on jase.
Il va juste terminer.
Selon toi, Mario, là, j'aimerais ça que tu... Selon toi, est-ce qu'on est plus près d'un retour des Nordiques qu'on l'était avant le début de la pandémie?
J'aimerais ça te dire oui, j'aimerais ça te dire non, je le sais pas. Je te rappelle que le plan de Gary Bettman, pour moi, était clair, et c'est ce qu'il a vendu au propriétaire. Oui, vous allez perdre de l'argent à vous, mais vous allez en faire plus loin. Puis là-dedans, je pense que Québec était dans le plan. Je sais qu'il y en a qui croient pas ça. Moi, je pense encore que Québec est une pièce importante du plan de Gary Bettman, qui vient de tomber à l'eau avec ce qui se passe dans le monde présentement. Et là, peut-être que ça va accélérer le retour. Moi, je pense que dans le plan, les Nordiques revenaient. Quand? J'avais mes petites idées pour 2021-2022. Là, ça peut être dans un sens retardé, parce que toute la Ligue va être retardée. Mais dans une chance, ça peut devancer le retour d'une équipe à Québec, parce que justement, il y a des équipes qui vont fermer boutique, comme il va se faire avec un paquet de commerces qu'on connaît autour de nous, nos petites PME présentement, qui seront pas capables de passer au travers. Vous pensez que toutes les équipes de la Ligue nationale sont pas comme certaines de nos petites PME? La Ligue nationale, c'est ça. C'est 31, bientôt 32 PME ou entreprises. Puis là-dedans, il y en a qui vont tomber, comme dans tous les domaines, avec ce qu'on vit présentement.
Mario Houdon, merci.
Salut mon chum, ça a été un plaisir. Puis on prend ça bientôt. Puis si vous voulez, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook, vous pouvez m'écrire sur Zone Nordique. Ça me fait plaisir de... Je réponds pas à tout le monde, mais je réponds à certains.
Merci Mario.
Allez.
Bye. Hey, la gang de la zone, je vous salue.